France Info. France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés également sur le canal 27 de la TNT. Mais qui voici, qui voilà? Et ben voilà, en tout cas pour la première fois de l'année, personne ne se plaint de la fraîcheur du studio de France Info et ils vont en profiter pleinement. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent la communicante Aurélie Moutarivet, bonsoir.
Bonsoir.
Jules Pecknard de l'Express, bonsoir.
Bonsoir.
Audrey Goutard, bonsoir, de la rédaction de France Télévisions, et le restaurateur Xavier Denamur, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, je crois que juste au début, pour l'émission, vous vouliez rendre un petit hommage.
Oui, je voudrais rendre un hommage à un ami qui était un grand, grand journaliste de l'information, c'est Hervé Guéquer, qui a disparu aujourd'hui. Mmh. Et Hervé, je le connais depuis 28 ans, il fréquentait mes bistrots tout le temps. Et donc, je voudrais lui dire que c'était très touchant. Quand il est revenu, quand il a été donc otage en Afghanistan. Et quand il est revenu, et la première chose qu'il est venu, il était venu boire une bière chez moi. Et je voudrais dire que c'était un homme de cœur, un grand. Il adorait le zinc, mais c'était vraiment pas, je dirais, quelqu'un qui avait une langue de zinc. Et je voudrais juste, dans mon petit livre, ouais, j'ai raconté une petite histoire, une petite anecdote qui va durer deux lignes, où je dis je pense à ceux qui partent longtemps ou qui sont très malades, comme Hervé Guéquer, qui a été otage en Afghanistan. Lorsqu'on se revoit après son année et demie de captivité, il me raconte que le premier truc qu'il rêvait de faire en arrivant, une fois passé le temps des retrouvailles avec ses proches, c'était de boire une bière à la Belle Hortense et de se sentir à nouveau chez lui. Alors je voudrais dire à Hervé qu'il se sente en liberté, qu'il se sente à nouveau chez lui et qu'on va penser à lui. Et je pense particulièrement à sa famille et Sandrine qui l'a accompagné jusqu'au bout. Et c'était vraiment un grand personnage et un grand monsieur avec un grand cœur de l'information.
Merci Xavier Denamur, en tout cas, pour ce bel hommage. Et nous, en tout cas, on parlera un peu de Jupiter à l'étranger, de loi travail et de deuxième tour J-4. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Alors, connaître des expressions populaires, ça n'est pas toujours la galerie. Ça interroge d'ailleurs aussi la galerie. À bon chat, bon rat, t'en vas à la cruche à l'eau qu'à la fin elle se brise. Mais certains vont plus loin encore. Par exemple, François Bayrou, qui ce matin n'a pas hésité à sortir de ses gonds en disant « Je ne sais pas vivre avec un bœuf sur la langue ». Oh là, ça s'est envoyé quand même. Hein. Alors on a quand même vérifié, puisque la signification, il s'agit bien d'une expression populaire, mais de l'Antiquité. Voilà, c'est François Bayrou. Cela signifie garder fermement un secret, maintenir un silence obstiné comme une réponse à Édouard Philippe, le recadrant, après que François Bayrou ait appelé Radio France pour protester contre l'enquête menée par les journalistes sur l'affaire des emplois fictifs d'assistants d'eurodéputés Modem, recadré mais pas touché, et ministre et citoyen. De toute façon, quelle différence, François Bayrou ?
Je suis un citoyen, je suis un ministre, je suis même un homme privé.
Vous êtes au-dessus des règles.
Mais pourquoi où avez-vous vu une règle ?
Eh bien, celle qu'a édictée hier matin, Premier ministre.
Non, c'est pas du tout de cette manière qu'il s'agit. Il se trouve que je n'ai pas ce type de relation avec le Premier ministre. Nous sommes dans la même équipe, nous travaillons ensemble, et j'ai tout à fait l'intention que cette relation de confiance s'exprime et dure.
Voilà, François Bayrou, ce matin sur RTL. Jules Pecknard, pourquoi finalement François Bayrou se fiche des avertissements d'Edouard Philippe ?
Je sais pas pourquoi, en regardant ces images, j'ai eu comme un vague souvenir d'Arnaud Montebourg au début du quinquennat de François Hollande. Il s'en fiche parce qu'il y a des problèmes qui sont liés à sa personnalité. C'est une personnalité très forte. Quand vous interrogez d'ailleurs des proches, que ce soit des anciens membres ou des actuels membres du Modem, ils vous expliquent qu'il a un sentiment de surpuissance. C'est-à-dire, il a réussi quand même un des plus beaux coups politiques de sa carrière. Il avait qu'un seul député sortant à l'Assemblée nationale, au Modem. Il arrive à faire 90 investitures avec LREM, avec La République En Marche. Il va probablement avoir plusieurs dizaines de députés à l'Assemblée. Donc il y a un sentiment d'impunité presque. Il est membre du gouvernement, il va avoir une loi qui va probablement porter son nom, la loi sur la moralisation de la vie publique, s'il n'est pas remplacé d'ici là.
Oui, c'est vrai, bien sûr.
Il y a une info de RTL selon laquelle il pourrait être remplacé assez vite, s'il continue à gêner
le gouvernement. Emmanuel Macron. Voilà. Alors Aurélie Motard-Rivet, quand vous voyez justement François Bayrou, est-ce qu'on se dit, finalement c'est ce que disait Jules Pecknard à l'instant, c'est lui pense avoir une relation privilégiée finalement avec Emmanuel Macron.
Je crois que là où il se trompe, c'est Jupiter contre Jupiter. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une escalade incroyable entre les deux. Il revient sur RTL ce matin. Il récidive comme ministre de la Justice. Donc, on est dans une logique assez incroyable, très risquée, puisque la stratégie du « retenez-moi ou je fais un malheur », finalement, ça marchait il y a quelques semaines, mais ça marche plus tellement depuis dimanche dernier.
C'est possible pour vous d'avoir finalement cet axe de défense, je veux dire, par rapport... Il nous a appelé, hein, voilà, Radio France, c'était mercredi dernier, il y a une semaine, pour dire il y a trop de pression sur les membres du MoDem par rapport à vos enquêtes, et de dire « je l'ai fait en tant que citoyen ».
Je crois que c'est totalement impossible aujourd'hui. C'est la fameuse théorie des deux corps du roi. On peut plus séparer le citoyen et puis le dirigeant aujourd'hui. Ce que veulent les Français, c'est justement une cohérence entre la parole et les actes, et puis une cohérence au fond entre le citoyen et le dirigeant. Donc non, c'est impossible aujourd'hui. Et je crois qu'il s'est mis dans une équation très compliquée, assez impossible, en voulant être monsieur moralisation.
Audrey Goutard, justement, est-ce que pour vous aujourd'hui, le ministre de la Justice, il a présenté d'ailleurs aujourd'hui sa loi sur la moralisation de la vie politique. On a presque l'impression que c'est un cas pratique. Hein, pour expliquer pourquoi sa vie, pourquoi cette loi va être bien. Est-ce qu'il peut encore... Enfin, ça va être compliqué, non ?
Bah, c'est compliqué parce que, pour plusieurs raisons. La première, c'est à partir du moment où ils demandent aux politiques d'être plus blancs que blancs, de se poser, finalement, d'incarner vraiment leur poste, leur job, et de ne pas être justement des citoyens lambda, effectivement, lui n'applique pas ce qu'il souhaite que les politiques appliquent. Et deuxièmement, effectivement, c'est qu'il a une affaire, et qu'avec une affaire, est-ce qu'on peut imaginer que le ministre de la Justice soit perquisitionné justement dans ses bureaux lambrisés ? Est-ce qu'on peut imaginer que sa plus proche collaboratrice au MoDem fasse de la garde à vue ? Maria de Sarnez,
qui est ministre.
Ou son ancienne assistante. Est-ce que c'est très compliqué et ça ne va pas tenir ? On a vu des ministres de la justice qui avait des affaires comme j'ai oublié son nom, Pierre Mémé-Niouri, qui effectivement avait une affaire judiciaire, mais c'est quand même extrêmement rare et extrêmement peu tenable aujourd'hui que vous avez un gouvernement qui veut absolument blanchir la vie publique.
Alors on va continuer à en parler justement de ce Caveiro, on parlera également de sa loi sur la moralisation de la vie politique, puisque c'est la première loi que présentera le gouvernement Macron devant la toute nouvelle assemblée, toute fraîche ripollinée. L'info à 20h10, Pierrick Bonneau.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons du cas François Bayrou. Et oui, le ministre de la Justice qui doit à la fois présenter une loi sur la moralisation de la vie publique et qui se retrouve également dans une affaire d'emploi soupçonné fictif au Parlement européen. Xavier de Namur, pour vous, quand vous voyez finalement cette tactique, la manière dont se débrouille François Bayrou, on a vu des images aujourd'hui à la sortie de Matignon, finalement, Édouard Philippe et lui s'entendent très très bien, tout va bien. Qu'est-ce que c'est, d'après vous, derrière ? Parce qu'on sait que ça a été un peu chauffé entre le MoDem et République En Marche.
Alors moi, Jules a fait un parallèle entre Montebourg, l'attitude de Montebourg et de Bayrou au gouvernement. Moi, je lis juste dans Le Monde, je vous dis juste un petit passage. Il n'y a jamais, c'est Bayrou qui parle. Il n'y a jamais eu de pratique critiquable au sein de notre mouvement. Jamais, tout cela est facile à établir. Ça me rappelle moi le parallèle avec Cahuzac. Jamais j'ai fait ça, etc. Donc on va voir ce qui va se passer derrière. Mais moi, je le parais, je semble vraiment mal barré Bayrou. C'est-à-dire que là, ils vont attendre les élections, mais je vois pas comment c'est tenable de faire quelque chose sur la moralisation et continuer de pas vouloir dire je me suis trompé, j'ai fait. Il pourrait le dire, mais il le fait pas. Comme l'a fait Cahuzac. Ils peuvent pas dire qu'ils se sont plantés, qu'ils ont grugé, parce que quelque part ils ont grugé, parce que Marianne de Sarnez, qui est quand même ministre au Parlement, aux affaires européennes, c'est-à-dire que c'est avec l'argent du Parlement européen qu'ils ont forcément utilisé, parce qu'ils n'avaient pas assez de pognon, utilisé des secrétaires. Donc ça va sortir, ça va prendre du temps, mais comme tout à l'heure vous parliez, Audrey de Manieri, il a été condamné après. Moi j'espère qu'aujourd'hui ça va aller un peu plus vite.
Aurélie, m'est arrivé.
Mais comme le dit Xavier, je crois que le poids lourd du gouvernement, enfin au départ il était choisi comme tel, comme un poids lourd en termes d'expérience, est devenu un poids très lourd à porter pour le gouvernement et pour Emmanuel Macron aujourd'hui. Donc ça va être effectivement très très compliqué, puisque au fond, il incarne, et c'est ce que disait très bien Audrey, c'est qu'il incarne aujourd'hui toute la politique d'avant, en fait. L'ancien monde, la politique d'avant Macron, que Macron précisément dénonce la pression sur les journalistes, mais aussi le retenez-moi ou je fais un malheur, ou les petits arrangements entre amis.
Et en plus, ce qui fait assez mal, c'est qu'aujourd'hui, avec Internet, il y a de la mémoire, et on a vu énormément de déclarations de François Bayrou critiquant Nicolas Sarkozy, faisant pression sur des rédactions, donc ça a fait mal. Justement, Jules Pecknard, au niveau, vous avez suivi, alors vous, bien sûr, la campagne pour les législatives et présidentielles, pour l'Express, est-ce que finalement, on sait les relations aujourd'hui tendu entre le MoDem et la République En Marche, malgré leur association, on sait, voilà, on se souvient du psychodrame des investitures. Voilà. Cette affaire, finalement, alors, c'est gênant pour Macron sur l'image, mais est-ce que c'est gênant politiquement ?
Non, pas tellement, parce que, en fait, la réalité, c'est que le raz-de-marée qu'on a vu dimanche dernier est annonciateur du raz-de-marée qu'on va avoir dimanche prochain. Et il y a fort à parier que la majorité que va obtenir Emmanuel Macron saura faire fi de l'apport des élus MoDem. Donc, de ce fait, Bayrou et ses amis seront des denrées périssables, presque. Le poids politique de Bayrou en amont, effectivement, est important, parce que c'est ça qui a permis à Macron de passer de
18%. Les fameux 5%.
Voilà, les fameux 5%. Alors, évidemment, l'arithmétique en politique, c'est toujours un peu difficile, mais c'est vrai qu'il a porté ce poids-là. Mais là, politiquement, après les législatives, il aura beaucoup moins à mettre dans la balance, Bayrou, et que ce soit Marie Le Sarnez ou d'autres. Donc, voilà, il y a cet aspect-là qui est quand même très important. Puis juste, j'ajouterai une ironie, c'est que le MoDem s'est toujours présenté comme le parti le plus pro-européen, et or, les problèmes d'emplois présumés fictifs sont au Parlement européen, c'est quand même assez amusant.
Audrey Goutard.
En même temps, ces problèmes ne sont pas neufs. C'est-à-dire qu'on peut imaginer aussi un calcul politique. Il savait très bien... Corinne Lepage a été la première en 2014 à parler des affaires du MoDem avec l'Europe et on savait, cette affaire courait vraiment. Et donc, lorsqu'effectivement on met Bayrou au pouvoir, on sait très bien au niveau du gouvernement qui est Bayrou et quelle casserole il a et quel risque il a. Donc, je pense, on a vraiment le sentiment que tout ça a été calculé, que effectivement il y a eu un pari sur la victoire aux législatives et qu'ensuite on s'est dit bon, voilà, on va gagner les législatives, on va avoir un bon score et on pourra se débarrasser ou pas. Alors la question, c'est est-ce qu'il vaut mieux se débarrasser de Bayrou et le faire sortir du gouvernement ou est-ce qu'il vaut mieux le garder avec soi ? Parce qu'après tout, il y aura quand même une cinquantaine de députés assez agités du MoDem si vous vous débarrassez
de Bayrou. Alors le problème, c'est qu'il n'y a pas que lui. En plus, comme vous l'avez dit, Xavier Denamur, il y a donc Marielle Le Sarnez et on oublie souvent une personne qui est encore au-dessus de tout le monde, c'est Sylvie Goulard, ministre de la Défense, donc du MoDem également. Aurélie Motarivet, François Bayrou a présenté aujourd'hui devant le Conseil des ministres donc cette loi sur la modernisation de la vie publique. Ça a été justement un engagement de François Bayrou. Il l'a exigé, d'ailleurs, d'Emmanuel Macron. C'est ça qui est assez étonnant.
C'est un peu ce que je disais au départ, c'est qu'il s'est tiré une balle dans le pied, quelque part. Et je crois qu'il y a un problème aussi lexicologique sur le terme de moralisation. Je pense qu'on est allé très loin. C'est très compliqué, parce que la moralisation, ça a introduit une notion de subjectivité, finalement. Qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui ne l'est pas ? On pourrait avoir un long débat ici. Il a voulu être le ministre de la moralisation plutôt que d'être le ministre de la légalité. On aurait pu appeler cette loi différemment. D'ailleurs, elle a changé de nom récemment, ça vous a pas échappé. Projet de loi de la confiance, dans la vie démocratique. Mais il y a un problème au départ de lexicologie parce que ça veut dire que dès qu'il y a doute, il y a soupçon et il y a culpabilité médiatique. Et donc il s'est mis un peu tout seul dans ce corner.
Justement, juste une chose, Jules Pecnard, cette loi, est-ce qu'elle est populaire dans le monde politique ? On imagine que beaucoup vont la voter, bien forcément, bien sûr.
Il y a un aspect, c'est-à-dire que la loi sur le non-cumul des mandats qui a été actée en 2014 et ça a déjà fait beaucoup bouger les lignes là-dessus. On part du principe que dans la prochaine assemblée, on ne pourra pas cumuler. Il y a beaucoup de députés qui ont choisi d'ailleurs leur exécutif local plutôt que d'essayer d'empiler pour avoir un deuxième mandat. Donc évidemment, ça fait mal en soi, mais l'avantage énorme qu'a Macron, c'est qu'il va avoir plein de nouveaux arrivants qui n'auront absolument aucun mal, justement. Au contraire, il porte ce genre d'idées sur la probité publique, sur la moralisation,
On ne pourra plus employer un membre de sa famille.
Voilà, le mélange des genres, les activités de conseil, etc. Donc non, finalement, il n'aura pas beaucoup de problèmes là-dessus, au contraire.
Xavier Namur, certains députés, finalement, républicains, ont dit, il y en a marre, on nous accuse de tous les maux, tout le temps, en permanence, on nous observe, maintenant, il faut rendre des comptes en permanence, tout le temps. Est-ce qu'il y avait déjà eu, bien sûr, la création de la haute autorité, la transparence de la vie publique, après l'affaire Cahuzac, on avait besoin d'une autre loi?
Je crois qu'il faut aller, il fallait aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que c'était bien qu'il y ait eu la haute autorité sur la transparence de la vie publique. Mais je crois qu'il fallait aller au bout. C'est-à-dire que l'idée du non-cumul dans le temps, moi, c'est dans le temps. Normalement, ça devrait être 2 ou 3 mandats maximum et normalement 4-5 mandats dans toute sa vie afin de permettre d'avoir un vrai renouvellement. Ce qui va faire du bien là. Et effectivement, ce que disait Jules, c'est qu'il a raison. C'est-à-dire que les nouveaux arrivants vont pas s'opposer puisque eux, ils vont être là. C'est pour la première fois. Ils sont déjà contents d'arriver là, comme par magie. Donc, ils vont pas s'y opposer. Mais je crois qu'il faut aller peut-être plus loin. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand on voit sur les attachés parlementaires, etc. et tout, on a eu le problème. Alors effectivement, on dit on ne va pas employer la famille, mais il faudrait avoir vraiment une chose de transparence. Ça va emmerder un peu tous les, excusez-moi du monde, les députés. Mais il faudrait vraiment avoir de voir le vrai boulot de ce qui est fait. C'est-à-dire qu'on ait une vraie transparence jusqu'au bout. Et effectivement, il y a une autre chose aussi sur la réserve parlementaire. Ça, je trouve ça très très bien. Je trouve que c'est normal qu'on arrête de distribuer du pognon comme ça à des associations pour être réélu. Et donc, ça va faire du bien. Là, il n'y a, y a, y a pas, n'y a pas à dire, c'est une bonne chose.
Et Audrey Goutard, pour vous, cette loi, finalement, c'est vrai, après l'année qu'on a passée, où on a parlé de politique, bien sûr, mais beaucoup aussi judiciaire à propos de cette loi, c'est-à-dire qu'elle arrive aujourd'hui, ça ne suffisait pas forcément la haute autorité ?
Non, parce que effectivement, je pense que les politiques eux-mêmes ont découvert à quel point il y avait une corruption importante, notamment au niveau des parlementaires, à quel point ils s'étaient endormis, si vous voulez, sur une espèce de sécurité, de vie facile.
D'habitude,
voilà. Donc je pense que l'affaire Fillon, notamment, leur a ouvert les yeux tout à coup sur l'énormité de la situation, et en tout cas le décalage avec certains pays européens. Et donc, je crois que les nouveaux, les jeunes députés qui arrivent là, auront d'autres tares. Hein. Je pense que c'est l'humain. Mais effectivement, ils démarreront avec une feuille blanche, ce qui est plutôt intéressant.
Allez, dans un instant, on va parler justement de quelques échos de campagne avant le second tour des législatives, et non plus des présidentielles. J'ai dit présidentielles, et non, c'est terminé, ça y est. Des législatives, c'est dimanche prochain, l'info à 20h20, Pierrick Bonneau.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, avec ce soir la communicante Aurélie Motarivet, le restaurateur Xavier de Namur, Jules Pecnard de L'Express et Audrey Goutard de la rédaction de France Télévisions. Alors, c'est vrai que depuis dimanche, nous observons ce nouveau monde politique qui se met en place, tel des documentaristes animaliers, dans la plaine du Serengeti un petit peu. Alors, beaucoup se plaignent d'avoir été éliminés au premier tour, perdus. Entre incompréhension et résignation, d'autres en sont malades, comme Henri Guénaud, et d'autres ne disent pas grand-chose, comme le Front National, avec un peu plus de 13% des voix. Le premier tour n'a pas été brillant pour les troupes frontistes. Il sera difficile de former un groupe malgré les 122 candidats FN qualifiés au second tour. Pour l'instant, pas de règlement de compte, mais cela pourrait venir après les élections. Et puis en plus, voilà, le retour de Jean-Marie Le Pen qui va s'inviter au conseil politique du prochain conseil politique du Front National. Mais franchement, qui s'intéresse encore aux législatives ? Ça serait bien quand même d'aller voter Marine Le Pen.
Bien sûr, nous ne sommes pas heureux de ce résultat. Et moi, je viens dire quand même aux électeurs patriotes, une grande partie d'entre vous ne s'est pas déplacée au premier tour des élections législatives. Il faut un sursaut patriotique. C'est essentiel. Vous ne pouvez pas laisser les perspectives de cette assemblée telles quelles. Notre pays, pour fonctionner démocratiquement, a besoin d'une opposition, a besoin d'une opposition qui ne soit pas réduite à la portion congrue. C'est pas seulement, encore une fois, le Front National que je défends ici. C'est vraiment le fonctionnement démocratique de notre pays.
Marine Le Pen, ce matin, sur Europe 1. Alors, justement, Aurélie Motarivet, à votre avis, est-ce qu'aujourd'hui, le Front National, quand on entend Marine Le Pen aujourd'hui, est-ce qu'elle paye finalement toujours cette mauvaise campagne de second tour la présidentielle? Elle paraît totalement inaudible, voire même absente, en fait.
Alors, je crois qu'il y a plusieurs choses ma réponse. La première chose, je crois qu'effectivement, elle s'est un peu désintégrée lors du débat télévisé, tout le monde s'en souvient, avec
pourtant,
Emmanuel Macron. Vous voyez, après, je pense que si on revient aux fondamentaux de la communication, c'est quand même, ça reste un leader, une figure populiste. On voit que dans le Nord, elle a plutôt réussi, comme Mélenchon
passer,
d'ailleurs à Marseille. Donc je trouve ça intéressant de voir qu'il y a une figure, quand même un leader qui reste aujourd'hui au FN. Contrairement d'ailleurs, c'est intéressant, on recherche désespérément les leaders au PS et chez les Républicains. Donc je trouve que ce contraste-là est assez intéressant. Après, est-ce que le FN est au bord du gouffre ? Oui, si on regarde les résultats, puisqu'au mieux, si je ne me trompe pas, c'est 10 sièges dimanche.
Voilà. Alors donc, qu'il en faudrait 15 pour créer un groupe.
C'est très maigre, on voit que c'est la guerre des longs couteaux avec la mise à mort de M. Philippot, donc un contexte assez c'est étonnant. Peut-être que la plus habile, d'ailleurs, c'est Marion Maréchal Le Pen qui s'est retirée pour mieux revenir dans ce contexte-là. Donc je crois qu'effectivement, ça c'est une donnée. Mais la deuxième qui me paraît importante, c'est, il ne faut pas oublier, il ne faut pas qu'on se réjouisse trop vite sur le sujet du FN, puisque malgré tout, la France est toujours coupée en deux aujourd'hui. On le voit dans l'abstention de dimanche. Et puis il ne faut pas oublier quand même 33,9% au présidentiel.
Au présidentiel,
donc il y a quand même une partie de la France qui se sent oubliée. Et donc je crois qu'il ne faut pas se réjouir trop vite. Au bord du gouffre, peut-être sur le système politique, mais ça représente encore quelque chose.
Mais justement, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on voit 11 millions de voix. Finalement, c'était le plus gros score jamais enregistré par l'extrême droite en France. Ils ne semblent pas du tout avoir capitalisé dessus. Et surtout, parmi les abstentionnistes, on retrouve les électeurs du Front National dimanche dernier.
C'est avec la France Insoumise, c'est le parti qui a été le plus mal loti au niveau de l'abstention. L'abstention, c'est ces deux parties-là qui elle a fait le plus mal. Et là, les électeurs du Front National ont eu le coup de massue effectivement de la campagne du second tour. Le score décevant, alors on pourrait dire 33%, finalement c'est pas si décevant.
C'est plus le premier tour en fait, qui les a 21%.
Oui, voilà, 21%, on est passé de 28% quand même, atteint son pic à la fin de l'année 2016, 28%, puis elle passe à 21%. 21%, il y a quand même une déception là-dedans. Et puis, il y a la question sur la ligne politique, sur la sortie de l'euro, sur voilà, qui en est le responsable. Est-ce que la ligne plus économiste de Philippot sur la souveraineté économique, finalement, est-ce que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas? Faut-il aller sur, plutôt sur les valeurs, sur l'identitaire? Est-ce que c'est ça, finalement, le ticket gagnant? Le problème, c'est que la figure de proue de cette aile-là, bah, elle est pas là. C'est Marion Maréchal Le Pen. Elle a pris la poudre d'escampette. Elle a eu raison, probablement. Donc, oui, effectivement, c'est une grande déception. Ils vont se retrouver avec 4 députés, probablement, dont Marine Le Pen, alors qu'ils ont fait quand même, ils étaient au second tour de la présidentielle.
Audrey Guttard.
Oui, en fait, ils ont retrouvé leur socle, c'est 13%. Enfin, je veux dire, il y a quelques années, le Front National avec papa, c'était 13%. Mm. C'est vrai que je pense qu'à un moment donné, on peut se poser aussi la question, on a cru, et nous, je vois bien dans les reportages qu'on faisait, etc., qu'il y avait un vrai vote d'adhésion nouveau du Front National, d'électeurs du Front National qui avaient décidé de s'engager vraiment pour le Front National et que ce socle de 13% avait grossi de façon magistrale. Et en fait, on revient au socle de base avec les électeurs du Front National.
Et ça paraît toujours étonnant de voir que ça peut se dégonfler finalement aussi rapidement quand il y a quand même 11 millions de voix, exactement comme Jean-Luc Mélenchon qui fait quand même 19% et qui se dégonfle.
Bah, en fait, parce que les gens votent aussi avec leur... ne votent pas avec seulement avec leur cerveau, mais aussi avec leur cœur, je pense. Mmh. Et qu'effectivement, ils ont été fascinés par cette femme, par ce mouvement, etc. Et puis, que ça s'est dégonflé comme une baudruche, parce qu'après tout, des gens qui adhèrent à fond au programme de Marine Le Pen, bah, c'est 13% pour l'instant. Et ça, on y revient.
Xavier Damiot, c'est ça, finalement, aujourd'hui, le FN revient à sa base, on va dire, historique, entre 13 et 15%.
Bah, c'est-à-dire que je crois que les citoyens sont aperçus d'ailleurs dans le débat que Marine Le Pen n'était pas très très bonne et que ses propositions c'était un peu flou, un peu brouillon, etc. Donc du coup, elle paye par la suite effectivement ce brouillon quoi. Donc après, je pense que ce soit la France insoumise enfin Mélenchon, c'est des problèmes de stratégie politique. C'est le mauvais choix de Mélenchon d'ne pas avoir appelé à voter Macron, même si on n'est pas d'accord avec Macron, mais il fallait. Si on voulait capitaliser pour avoir une Assemblée nationale après, il fallait dire, moi j'appelle à voter par exemple pour Mélenchon, Macron, et après on va faire une Assemblée nationale réellement, parce que Marine Le Pen elle vend de sa paroisse, mais il fallait vraiment une Assemblée nationale qui allait bouger et qui allait travailler. Et qui allait travailler, pas forcément avec Macron, mais pas forcément non plus contre.
Allez, dans un instant, on va y revenir, on parlera également de la loi travail et de déplacements à l'étranger d'Emmanuel Macron, et même de ces présidents étrangers qui viennent en France, hein, Emmanuel Macron qui travaille, ça pose sur international. Voilà le programme à suivre dans les informés de France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, ils font grincer leurs souliers sur l'infernale piste de danse de l'actualité. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent la communicante Aurélie Motta-Rivet, également le restaurateur Xavier Denamur, Jules Pégnard de L'Express et Audrey Guttard de la rédaction de France Télévisions. Alors juste avant que François Bayrou se plaigne du travail des journalistes, Muriel Pénicaud, ministre du Travail, avait déposé plainte contre le quotidien Libération concernant la publication d'un projet sur la future loi travail. Alors, vu la volonté de réforme de ce gouvernement, c'est une idée comme ça, on pourrait peut-être tous s'inscrire, journalistes et ministres, sur Snapchat, comme ça ira plus vite, on communique rapidement, plus il y a des filtres super rigolos, ça peut vraiment être super. En tout cas, la loi travail est le texte qui fait aujourd'hui le plus parler, la volonté d'Emmanuel Macron d'aller plus loin que la loi El Khomri interroge, la volonté d'ordonnance énerve les opposants, mais pas de panique, ça va se faire. Tranquillou. Alors, vous pourrez la sentir passer, mais ce sera tranquillou, Muriel Pénicaud.
Elle sera dans les délais prévus. Le Premier ministre l'a annoncé avant la fin de l'été. La fin de l'été étant le 21 septembre, ça veut dire courant septembre. Oui, d'un point de vue législatif. Après, le plus important, c'est comment les entreprises, comment les organisations de salariés vont s'en saisir dans l'entreprise. Comment ils vont faire plus d'accords, parce qu'ils auront des trucs moins rigides qui leur arrivent prémâchés et ils auront plus de marge de manœuvre pour un dialogue social et économique. C'est ça le but. Et donc on saura, si c'est réussi, qu'il y aura plus de dialogue social de qualité dans l'entreprise et donc plus de performance.
La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, ce matin sur CNews. Alors justement, Jules Pécnard, on a vu hier le Premier ministre et la ministre du Travail en promenade, comme ça, en visite dans une usine, une entreprise pardon, du Val-d'Oise, et ils n'ont rien voulu dire sur ce sujet. En fait, ils évitent la question.
C'est pas qu'ils évitent les questions, c'est que
bon, la question travail.
On verra, on va laisser progresser la chose, parce que là, de toute façon, on attend d'avoir notre belle majorité, parce que pour que la loi d'habilitation pour les ordonnances passe tranquillou.
Tranquillou, exactement. Ouais, ouais, tranquillou. Voilà.
Et donc, après coup, comme ils ont une chambre qui leur doit tout, surtout à Emmanuel Macron, ça va passer sans problème. On pourra faire passer les ordonnances pendant l'été. Après, le vrai problème, c'est quand on regarde les élections législatives, quand on regarde que sur la totalité des inscrits, à peu près 15% des inscrits en France ont voté pour LREM. Et LREM a obtenu plus de 400 députés. On peut se demander, avec 50% d'abstention, si ce n'est pas dans la rue que va se faire finalement l'opposition à cette loi travail. Parce que là, pour l'instant, on a l'impression que tout va bien, tout roule. La question peut effectivement se poser, parce que c'est quand même une loi d'obédience libérale,
oui, bien sûr,
d'obédience
oui.
libérale. Voilà, en France, c'est ce genre de loi qui, comme en 95, pose problème.
Bah, on se souvient de la loi El Khomri qui nous avait quand même occupé quand même tout un printemps et même avant, la fin de l'hiver. Justement, Aurélie Motarivet, pour vous, quand vous voyez ça, c'est au niveau communication, on les a vus se promener, et quand des journalistes posaient des questions, alors cette loi travail, quand est-ce qu'on le saura? Certains responsables politiques souhaitaient d'ailleurs qu'elle soit dévoilée avant les législatives, ça n'a pas été fait. Tout ça, c'est une tactique ?
C'est effectivement de la pédagogie prudente, on va dire. En fait, on cache rien, mais on fâche pas vraiment non plus avant les législatives. C'est plutôt ça, la stratégie du moment. Alors, est-ce que c'est tranquille ou pas ? Je sais pas. Mais en termes de communication, je trouve que c'est intéressant de voir que sur la méthode, il prend le contre-pied. Emmanuel Macron prend le contre-pied de François Hollande. François Hollande a fait El Khomri, la loi El Khomri, à la fin de son mandat, au moment où la popularité était au plus bas. Emmanuel Macron profite finalement de l'état de grâce. Peut-être pas pour faire ça tranquillou, mais pour faire ça dans la torpeur de l'été. Donc je trouve que c'est, en tout cas en termes de communication, c'est un contrepoint à François Hollande encore une fois.
Alors Xavier de Namur, vous avez signé une tribune en tant que patron de PME où vous signifiez finalement votre méfiance à l'égard du futur texte. Pour vous, est-ce que le gouvernement aurait dû dévoiler ce texte avant les législatives ?
Oh bah, je sais pas si on a une idée, je sais pas s'ils l'ont dévoilé complètement, mais enfin on a quand même une idée de ce qu'ils vont faire.
Apparemment, c'est-à-dire... Libération, vu qu'il y a eu une plainte, apparemment Libération n'était pas dans le tort.
Non, mais ils n'ont pas eu du tort. D'ailleurs, Libération a refait aujourd'hui un papier expliquant que tout ce qu'ils avaient dit c'était bon, quoi. Donc, sauf que dans cette histoire, moi je sais pas si encore une fois on aura le feu au printemps ou pas, mais de passer par ordonnance l'été, ça me rappelle quand même quelque chose dans la loi Macron. Alors peut-être que ça s'appelait la loi d'égalité des chances économiques. Ou moi je le dis quand même, Macron il nous l'a mis profond, nous les petits patrons, puisqu'on pouvait pas, on doit se constituer avocat pour aller en cour sociale d'appel. Ça s'est passé au mois d'août, hein, comme d'habitude. Donc maintenant, dans sa loi, ce qu'il propose, le plafonnement des indemnités de prud'homal, moi je rappelle quand même que les juges prud'homaux jusqu'à maintenant, ils n'ont pas eu besoin, parce que le barème, ils sont souvent en dessous du barème. Donc je vois pas trop l'intérêt, à moins que ça serve les grands groupes. C'est comme la négociation de dire on va négocier dans les entreprises, c'est bien beau, mais de dire voilà, vous avez travaillé 39 heures et vous avez payé sur la base de 35, moi dans mes petites PME et TPE, ça n'existe pas, on peut pas. Donc ces accords d'entreprise, ça marche dans les très très grands groupes, mais dans les petites boîtes, on a déjà nous négocié, on a déjà fait, on peut pas venir en arrière. D'ailleurs, je citerai d'ailleurs le patron, j'ai eu un patron tout à l'heure d'une boîte assez grande qui a 250 salariés, c'est le groupe Michaud, et Vincent Michaud me disait qu'effectivement, lui, il a pas attendu la loi, il y a pas d'accord de branche dans le secteur, il fait du miel, il a pas eu attendu l'accord de branche, il avait déjà organisé sur les heures supplémentaires, sur le travail le samedi, le dimanche, mais avec un vrai accord d'entente entre les salariés, les actionnaires et puis quelque part aussi les clients.
Alors, Aurélie Motarivet, vous l'entendez, voilà, il y a des doutes quand même. C'est vrai, autour de ça, c'est vrai, il y a négociation mise en avant, c'est vrai que le mot négociation est souvent prononcé, c'est vrai que quand on voit aujourd'hui, on ne sait pas, parce qu'il y a une philosophie qui a été énoncée, mais concrètement, on ne sait pas.
On ne sait pas du tout, on est dans le flou, effectivement, artistique, on voit l'intention, à peu près, on parle effectivement, la ministre parle d'intention, de dialogue social amélioré, mais effectivement, on ne voit pas très clairement aujourd'hui où ça va aller. Moi, il y a un élément de contexte qui m'amuse quand même, vous vous souvenez du hashtag ça va mieux ?
Oui.
Oui, tout le monde ricanait, voilà, et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'Emmanuel Macron, au-delà de Make Our Planet Great Again, finalement, il a une chance incroyable parce que c'est la première fois que le chômage est sous la barre des 10%. L'économie reprend et donc je trouve qu'il fait ça en plus dans un contexte qui est extrêmement favorable malgré tout.
Ouais, Audrey Goutin,
Et puis en plus, un contexte syndical qui lui est favorable parce qu'en ce moment, les syndicats sont relativement affaiblis. La CGT ne s'est pas bien sortie de ses élections internes, etc. Donc, et c'est vrai que des ordonnances qui vont passer en septembre, des annonces qui vont être faites en septembre avec des syndicats qui ne sont pas puissants, qui auront discuté en plus avant, donc qui auront accepté certaines choses, effectivement, ça... Bon, alors après, il y a le flou de la communication. Alors effectivement, pour reprendre la fameuse phrase que tout le monde reprend en ce moment, c'est quand il y a du flou, il y a un loup, hein, c'est ça ? Mais alors, est-ce que c'est vraiment un loup ? Est-ce qu'il y a vraiment un loup ? Ça, pour l'instant, personne n'est capable de le dire. Non, mais personne n'est capable de le dire, mais en même temps, la stratégie, jusque pour le moment, en tout cas, syndicats payent. Mmh. C'est-à-dire que ça fait parler. On imagine, les journaux font sortir des informations encore plus dures que ce qui... Et d'ailleurs, on peut soupçonner le gouvernement de lancer des petits cailloux. Ce qui n'est pas nouveau, les fameux ballons d'essai. Ouais. Et pour le moment, la France n'est pas dans la rue.
Pas encore. L'info à 20h40, c'est Pierrick Bonneau.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, ce soir, on prend un petit peu d'avance, avec mon stylo qui tombe d'ailleurs, on prend un petit peu d'avance sur la loi travail. On va beaucoup en parler cet été, puisque les réunions entre syndicats et gouvernement auront lieu cet été. Les premières ordonnances seront publiées donc à la fin de l'été. Alors attention, la fin de l'été, pour nous, c'est la fin des vacances. Pour le gouvernement, ça serait le 21 septembre. On respecte les saisons. Voilà, au gouvernement, Nicolas Hulot est au gouvernement, donc faut faire attention à ça. Xavier de Namur, pourtant, quand on entend le Premier ministre, il nous dit, voilà, cette loi travail, ça sera pour libérer voilà, les énergies. C'est pour aujourd'hui faire qu'on travaille mieux en France. Est-ce que vous l'entendez, vous, ce discours ?
Moi, ce que je vois, on parle parce que je vois très bien où veut arriver Macron et son gouvernement. C'est une espèce de flexi-sécurité. On pourrait virer plus facilement pour embaucher plus facilement. Alors, c'est peut-être vrai au Danemark, parce que je pense que l'exemple du Danemark, ça doit marcher. Je suis pas sûr qu'en France, on n'a pas tout à fait le même fonctionnement. Et puis, moi, ce que je pense que... Et là, ils y sont pas arrivés. Pour l'instant, j'ai pas entendu parler. Nous, ce qui est dans les petites entreprises... Parce que, en fait, on nous parle toujours qu'on va essayer d'aider les petites boîtes, etc. On l'a vu sous Sarkozy. Entre autres, moi, je me souviens de la de la TVA, ça devait aider les petits. En fait, c'est les gros qui ont tout ramassé le pactole. Après, sous Hollande, on a eu le CICE, ça devait aider les petits. Encore une fois, c'est les gros qui se sont bien coiffrés et tout le monde a eu des miettes. Et là, maintenant, moi, ce que je dis sur cette loi travail, moi, le CDI, ça me dérange aucunement. Dans les entreprises, ce qu'il faut, c'est d'avoir de la confiance avec nos salariés, les payer, que les boîtes, elles fonctionnent. Par contre, ce qu'on a, par exemple, nous, dans les boîtes, et là, le MEDEF, ni le gouvernement, j'allais dire le patronat, n'en parle, c'est qu'on a, par exemple, un problème sur les seuils sociaux. Et là, les syndicats, alors tout le monde s'accroche à ce truc-là, alors que souvent, là, on a un potentiel énorme d'emploi. Moi-même, je me suis freiné dans mon truc, c'est le seuil des 50. C'est-à-dire que quand vous êtes une petite boîte, que vous passez de 2-3 salariés à une cinquantaine, une 70 en l'espace de 2-3 ans, vous avez tout d'un coup un bordel pas possible parce que vous y êtes pas prêt. Et ben là, je trouve qu'on devrait monter à 100 ou 200. Mmh. Les syndicats aujourd'hui ne représentent rien dans les petites boîtes, ça gênerait personne. Et là, on aurait beaucoup d'emplois à créer.
D'accord.
Et après, on pourrait constituer effectivement d'avoir des CE et tout ça.
Alors,
mais au début, vous transpirez quand... Surtout si vous n'avez pas des salariés qui sont vraiment favorables à l'entreprise. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des bons, ça peut bien se passer, mais vous pouvez aussi avoir des très mauvais.
Et Jules Pecquenard, on voit très bien que les délais finalement sont assez courts. Hein, quand on dit ce serait le 21 septembre, les premières ordonnances, c'est-à-dire l'été. Aujourd'hui, c'est raccourcir au maximum ces réunions, les empiler et puis voter rapidement, tout ça pour éviter.
Bah oui, mais c'est comme disait Aurélie, là le timing est serré. Et puis il faut ne pas faire comme dans le quinquennat précédent, c'est-à-dire faire une des lois les plus contre-intuitives pour un président de gauche en fin de mandat, alors qu'il est au plus bas de sa cote de popularité, bon bah autant aller vite. On a créé un peu un état de grâce de toute pièce dans la mesure où il n'a pas été élu avec une énorme assise électorale. Bon bah allons vite, allons-y fort. En plus avec une communication verrouillée du style, voilà, ça vient d'en haut, il y a une espèce de verticalité. Puis on communique pas trop sur le contenu. On l'a fait voter. Et puis on verra les effets du coup vite. Et c'est là-dessus que parie en fait Emmanuel Macron, c'est sur les résultats. Parce que la crise du résultat économique, c'est ce qui a vraiment beaucoup planté à la fois Nicolas Sarkozy et François Hollande.
Le fameux score du chômage.
Puis on a vu d'ailleurs cette communication-là aussi, c'est différent. Parce que Madame Pénicaud veut faire une annonce des chiffres du chômage par trimestre et non pas par mois, ce qui était un des boulets de messieurs Rebsamen, Madame El Khomri, etc. À chaque fois, ils devaient annoncer. Là, ce sera différent. Donc on voit qu'il faut aller vite et fort, enfin dans leur esprit. Quoi.
Audrey Goutard, est-ce qu'il y a aussi une volonté, finalement, on n'en sait pas trop, donc on connaît un peu la philosophie, on va dire un peu plus libérale. Il y a une volonté aussi, finalement, politique, ça veut dire de séduire la droite, tout simplement, qui pourrait voter La République En Marche pendant les législatives en disant, regardez la loi qu'on est en train de faire. En plus, il y a une ministre du Travail qui est dans la société civile, mais il y a Sibéral, la ministre de l'Économie, c'est Bruno Le Maire. On se dit, finalement, tout ça, c'est pour une bonne entente, non ?
Oui, évidemment. Et puis, il y a cette espèce de petit teasing quand même qui se fait entre les deux tours et évidemment s'adresse aux gens, aux militants de droite. C'est vrai que même s'ils ne disent rien sur le contenu, ils lâchent quand même quelques trucs. C'est vrai que quand, par exemple, on parle d'un accord d'entreprise sur les causes des licenciements, etc., Édouard Philippe répond « on verra ». Donc, il y a quand même des petits trucs lâchés par-ci, par-là, ces fameux petits cailloux lâchés qui permettent de rassurer effectivement l'électorat de droite et puis d'interroger l'électorat de gauche, mais qui, de toute façon, visiblement, pour le moment, est assez... emballés par le nouveau président.
Aurélie, où t'arrives ?
Et en plus, pour ajouter, les syndicats pourront expliquer qu'ils ont gagné, ils ont eu des victoires.
Voilà.
Parce que le texte va assez loin en l'état et les fuites qu'on voit finalement séduisent à la fois l'électorat de droite et permettent de dire qu'on aura obtenu des victoires. Juste pour rebondir sur ce que disait Xavier tout à l'heure, parce que j'aimerais finir sur une note un peu positive quand même. Moi, je reviens des États-Unis, vous voyagez tous ici. Je suis quand même très frappée, je pense qu'il y a un sujet aussi d'image de la France et je crois qu'il y a vraiment une volonté de donner une image très pro-business et ça se ressent réellement à l'étranger. Et ça, c'est extrêmement positif.
Alors après,
aussi.
Est-ce que ça donne de l'emploi d'être avoir une image pro-business.
On verra bien. Voilà, ouais, mais voilà. je trouve qu'il y a une dynamique, une image de modernité et une vraie attente de la part de la France et des entreprises françaises en particulier.
Alors justement, on va parler de l'international maintenant, puisque vous savez que Jupiter s'est envolé sur son éclair direction le Maroc, c'est ça, un saut de puce facile pour Emmanuel Macron qui n'a juste qu'à enjamber la Méditerranée pour se rendre en Afrique du Nord, c'est vraiment facile. Une visite rapide, en fait, au roi du Maroc, une visite, nous précisons, je cite, personnelle avec le roi du Maroc pour une première prise de contact. Alors oui, c'est vrai que ça fait un peu stage en entreprise, mais on sait que les liens entre la France et le Maroc sont précieux. Le nouveau président de la République ne compte pas les distances. Alors ça fait quand même grincer quelques dents, notamment chez le voisin algérien, qui avait autrefois la primeur du premier voyage présidentiel au Maghreb. Macron, on le sait, travaille sa posture à l'international et la presse étrangère connaît également, on vient de l'entendre, une petite macromania avec quelques bémols quand même, faut bien le dire. On va les voir dans un instant. Il y a eu Donald Trump, Angela Merkel, Vladimir Poutine, Alassane Ouattara, le président indien. Pourquoi il travaille comme ça finalement, je peux dire, sa posture internationale? C'est parce que ça fait bien, parce que aussi il sait qu'il peut avoir des résultats avec ça au national?
Il y a au national des résultats. Les Français traditionnellement sont attachés à l'image du président, cette espèce de verticalité, Jupiter parmi les grands, voilà la espèce de tradition gaulo-mitterrandienne que Macron, malgré son jeune âge, reproduit quand même extrêmement bien, en tout cas mieux dans l'image collective.
Il est très attaché à ça.
Et là, donc, il se déplace au Maroc. Il en avait parlé pendant la campagne. Il avait dit qu'il visiterait le Maroc. Il sait très bien que ça peut froisser le voisin algérien. Du coup, il n'y va pas avec une ribambelle de conseillers, avec une équipe de... Voilà. Il y va seul, voilà, avec faire un repas avec le roi Mohamed VI. Bon, c'est beaucoup plus feutré. C'est à la fois discret. En même temps, on le dit. Donc, ça se sait. Voilà, pour montrer que je me mesure au grand. Surtout à des gens, comme des dirigeants comme Vladimir Poutine ou Donald Trump, qui sont extrêmement virils, qui veulent montrer ça. Voilà. Bon, il veut montrer que malgré sa jeunesse, il peut se mesurer à eux.
Audrey Goutard, on l'a vu aujourd'hui, cette poignée de main avec Donald Trump, on en a beaucoup parlé. On a parlé aussi du fait qu'après, Donald Trump était sorti quand même de l'accord climat de Paris. Emmanuel Macron, c'est pas forcément le candidat le plus écologiste de la présidentielle qui vient de passer, mais il se sert là du climat justement pour avoir une posture internationale. On le voit.
Évidemment, Donald Trump lui a laissé un champ d'action énorme. Effectivement, il a pu se positionner comme étant le leader européen qui va sauver la planète. Et c'est vrai que dans cette idée, dans ce récit que Emmanuel Macron raconte depuis le début sur rendre une fierté aux Français, sortir de la normalité pour avoir un poids, etc., c'est vrai que le climat, même s'il n'en a pas parlé pendant sa campagne, le climat tout à coup apparaît comme quelque chose de magique, parce qu'effectivement, ça donne une aura internationale et ça donne une posture importante pour, finalement, pour les gens de sa génération, parce que les gens de sa génération, de la génération de Macron, sont intéressés par le climat et ont envie effectivement d'avoir un environnement plus propre,
plus sain. Voilà, plus allez, sain. On va continuer à parler justement de cette posture internationale dans un instant. L'info à 20h50, Pierrick Bonneau.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons d'Emmanuel Macron qui est en ce moment même au Maroc. Alors c'est une visite un peu discrète, il y va, je reprends les termes, pour une première prise de contact avec Mohamed VI. Ce n'est pas la première fois que Emmanuel Macron rencontre bien sûr des chefs d'État en tant que président de la République. Vous, Xavier de Namur, votre regard finalement de citoyen sur ça, est-ce que vous le voyez? On le voit, il reçoit beaucoup de chefs d'État, il a reçu le chef d'État ivoirien, indien, Vladimir Poutine, il a été au sommet du G7. Est-ce que c'est important pour vous cette posture internationale que se donne Emmanuel Macron?
Ah oui, alors moi je trouve que là c'est là-dessus où il est vraiment très très bon, c'est-à-dire qu'effectivement il a appris, je crois qu'il y avait une partie de l'équipe d'Obama qui a travaillé avec lui sur sa campagne, sur sa com.
On sent une petite obsession, Obama.
On reprend, il montre comme Obama les marches 4 à 4, enfin il a la poignée de main, il a le bon truc, il parle anglais couramment, vraiment il est au niveau de l'anglais, il est fluently, il est perfect. Donc effectivement ça, en tout cas il donne une image de la France qui peut effectivement derrière, alors on va voir comme Obama ce qu'il a pu faire sur place, qui donne en fin une certaine dynamique. symbolique quand même. Et au niveau international, je pense que c'était important de voir un président de la France incarné. C'est-à-dire que, et là, on va voir s'il va incarner au-delà des choses sur le climat, etc. Mais vraiment un président qui s'inscrit vraiment dans l'histoire et très puissant. Et là, j'aimerais bien qu'on sorte des petits trucs de clivage et tout ça et qu'on aille beaucoup plus loin et qu'il devienne effectivement the president et qu'il s'occupe effectivement sur les questions de l'écologie et tout. Alors, il a nommé Hulot, je trouve ça très bien. Et je fais juste une petite parenthèse. C'est que moi, je présente un film qui s'appelle Zéro Phyto, 100% bio à Agen, une projection débat, le 19 juin. Et donc, j'aimerais bien que tous les élus, les attachés parlementaires, mais les futurs candidats et les candidats, viennent dans les salles de main et rencontrent les citoyens. C'est-à-dire que là, c'est bien de rencontrer des gens très hauts et tout, mais que tous les gens En Marche, etc., et les autres viennent dans les cinémas rencontrer les citoyens et se confronter à ce qu'ils disent et tout. Et ça serait bien sur ces questions de climat qui, même si c'est sur des films sur la cantine, correspond à quelque chose de global.
Aurélie Motarivet, il y a un bémol tout de même, je tiens quand même à le signaler. On le voit quand même chez nos voisins au moment de son élection. La presse allemande, par exemple, autant Angela Merkel était assez enthousiaste par rapport à l'élection d'Emmanuel Macron, la presse allemande, elle doutait un petit peu parce qu'ils n'ont pas du tout la même finalement vision de l'Europe. On le sait par exemple sur la zone euro, des choses comme ça. Et puis aujourd'hui, il y a le New York Times qui aujourd'hui s'inquiète des dérives autoritaires carrément d'Emmanuel Macron. Ils disent la concentration de pouvoir et surtout, ce qui les choque beaucoup, c'est que l'État d'urgence pourrait rentrer finalement dans le droit commun, que finalement toutes les prérogatives du droit de l'état d'urgence. Alors là, est-ce que finalement ce sont des choses peut-être inattendues pour Emmanuel Macron, non, de voir...
Je crois que c'est pas mal pour une fois qu'on suscite des jalousies en France. Je suis plutôt positive là-dessus, je trouve ça pas mal et je trouve qu'au contraire, il maîtrise totalement les codes diplomatiques. C'est impressionnant la vitesse à laquelle il les a intégrés. Je ne vais pas faire de comparaison avec les prédécesseurs, mais c'est très impressionnant et c'est une façon pour lui d'accélérer sa présidentialisation en fait. Donc en termes de communication, c'est assez malin et en plus, c'est une façon pour lui de sortir du débat franco-français, des problèmes franco-français qu'on a évoqués avant.
On peut comprendre que c'est de la com, mais est-ce que finalement, même de parler avec Vladimir Poutine ou avec Donald Trump, est-ce que ça sert à quelque chose? Enfin, pour vraiment, par exemple, quand il dit devant Vladimir Poutine, par rapport à l'Ukraine, par rapport à l'Europe, est-ce que finalement, à votre avis, Vladimir Poutine l'entend?
Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il est au cœur du jeu aujourd'hui. Alors, tout le monde est gagnant. Effectivement, Poutine est gagnant quand il vient à Paris, puisqu'il sort de son isolement. Theresa May aussi. Mais c'est aussi une façon de reprendre la main. Et c'est un peu comme quand vous installez dans une maison, vous allez dire bonjour aux voisins. Il y a des codes diplomatiques, c'est comme ça. Et il fait le tour. Et il s'en sert, je trouve, plutôt habilement pour que la France rayonne sur la scène internationale.
Audrey Goutard.
Puis, logiquement, c'est bon pour le business aussi. Un sens large. Par exemple, on se souvient, il est quand même un de ses plus proches conseillers, c'est aussi Le Drian qui a été quand même
ministre
des Affaires étrangères aujourd'hui, mais qui à l'époque où il était ministre des Armées a été le super VRP de la France.
C'est ça,
C'était le plus populaire en France, donc ça marche aussi d'avoir une forte personnalité à l'étranger, une forte personnalité et être bien vu par l'étranger.
Il a vendu des rafales.
D'abord c'était bon pour le commerce, et en plus les Français... C'est le seul ministre adoré des Français, Le Drian. Donc, effectivement, avoir une aura internationale, c'est bon aussi à un niveau national. Le retour de la diplomatie économique voulu par Fabius, d'ailleurs.
Xavier Damien.
Oui, effectivement, je le constate dans tout au quotidien. C'est-à-dire que les touristes, etc., des gens de l'étranger, on a une meilleure image. Ils disent d'ailleurs, moi, je vois les Américains qui disent, nous, c'est une catastrophe, on a Trump, et vous avez Macron. Donc, on a, au niveau international, ça a changé. Je crois qu'on a un retour en masse. Bon, ça va peut-être favoriser l'économie française, mais en masse du tourisme en France, c'est énorme.
Juste une dernière chose, Juppé Pécard, sur l'Europe, c'est là aussi où il est attendu. Macron, il avait dit « je suis europhile pro-européen ».
Il a volontairement fait une campagne très pro-européenne, parce que la rigueur, c'est sa matrice idéologique, donc c'est normal. Mais ça va aussi lui permettre d'avoir plus de force, justement, dans les négociations. C'est-à-dire, j'ai fait une campagne, j'ai dit que j'étais pro-européen, maintenant, j'ai plus de poids pour contrebalancer, justement, l'influence de l'Allemagne dans les négociations à Bruxelles.
Allez, les informer. Je suis désolé, Audrey Goutard. Oui, ça doit se terminer. Je sais que c'est toujours un drame. Je sais, voilà. Ça doit se terminer, les informés de France Info. Merci beaucoup, Xavier Denamur, d'être passé ce soir. Merci, Aurélie Motarivet également. Audrey Goutard, donc merci. Et la une de l'Express.
Changer de vie, chiche. Un grand dossier sur la reconversion professionnelle qui, d'ailleurs, arrive à point nommé au moment où il y a beaucoup de députés qui vont se retrouver hors de l'Assemblée nationale et à devoir se reconvertir. Donc, la reconversion professionnelle en milieu de carrière.
Et acheter l'Express. Donc, en fait, c'est ça. En fait, vous êtes en train de nous dire qu'il faut que ces députés achètent l'Express.
Pour changer de vie, le mode d'emploi.